Comme tous les lundis, nous allons retrouver Mathias Terrier. Bonjour Mathias.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes responsable aujourd'hui de tout ce qui est hébergement dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes et bien d'autres dossiers bien sûr. Et vous allez partir en voyage, mon cher Mathias, on me dit que vous allez partir en Belgique ainsi qu'en Allemagne pour aller à nouveau rencontrer les directeurs de pèlerinage. Alors, il y a eu les journées de Lourdes où ils sont venus. C'est quoi partir à la rencontre, d'aller dans ces congrès de pèlerinage dans les pays étrangers ?
Oui, en effet, Philippe, vous avez raison de dire que je ne pars pas en voyage. En fait, je vais à la rencontre de personnes qui aiment Lourdes. et qui... Alors, le voyage, c'est pour aller les rencontrer, mais ce n'est pas du tourisme. Voilà. Ce n'est pas un voyage touristique. Là, les deux prochaines destinations, c'est juste de dire que ce sera Belgique. En particulier, je vous en parlerai avec cette fédération du Benelux que je vais rencontrer. Et puis ensuite, en Allemagne, principalement à Cologne. Alors, de quoi s'agit-il ? En fait, tous ceux qui aiment Lourdes et qui organisent la venue de groupes à Lourdes, qui sont plus ou moins conséquents et qui sont parfois des pèlerinages très conséquents, s'organisent souvent au sein d'une même nation ou de plusieurs nations voisines en ce qu'on appelle des fédérations. Ces fédérations, ce sont des fédérations de directeurs de pèlerinage ou de présidents d'hospitalité. Et donc, il en existe une dans le Benelux qui rassemble, comme son nom l'indique, la Belgique, le Luxembourg. Et donc, cette fédération du Benelux se réunit très bientôt, tout début mars, du 1er au 2 mars, au 3 mars, donc à Leuven. Leuven, c'est l'autre nom en flamand de Louvain. Et je me rends donc à la rencontre de ces directeurs et présidents d'hospitalité du Benelux qui, sous la houlette du père Joe Dams, organise donc cette rencontre qui permet en fait à une fédération de partager les difficultés des différents pèlerinages, de partager des solutions, de faire en sorte que finalement ces directeurs ne se sentent pas esseulés et puissent s'organiser entre eux, s'entraider. C'est l'essentiel d'une fédération qui en même temps peut être aussi un interlocuteur privilégié pour le sanctuaire de Lourdes. Là, je me rends donc à la fédération du Benelux. Il y a également une autre fédération en Allemagne où je me rendrai en suivant, en fin de semaine. Donc ça veut dire que en début de semaine, semaine de mars, je suis du côté de Louvain, Leuven, et puis après à Cologne, en Rhénanie, donc Rhénanie-Westphalie, où il y aura là également la rencontre de la Fédération d'Allemagne.
Alors, le sanctuaire vient à leur rencontre, puisque vous représentez le sanctuaire. D'abord, pour eux, ça doit être une grande joie d'accueillir le sanctuaire chez eux, puisque c'est eux, d'habitude, c'est eux qui viennent jusqu'à Lourdes. C'est vraiment, là, vous parlez du thème de l'année, mais également de tout ce qui est logistique.
Oui, en fait, on balaie tous les sujets, on passe en revue tous les sujets. Il existe à ce jour en Europe quelques fédérations qui sont très actives et vous allez voir que les problématiques peuvent être très différentes de l'une à l'autre. Si je vais du côté de l'Irlande, où je suis allé en fin d'année dernière, en Irlande, leur grande question aujourd'hui, c'est revenir à Lourdes 3 ans après leur dernier pèlerinage. Puisqu'il y a eu cette grande parenthèse de la Covid-19 et les Irlandais sont très préoccupés par les questions sanitaires. Les questions de sécurité sanitaire des personnes qu'ils accompagnent et qui sont en situation de fragilité. Si je vais en Angleterre, je suis allé aussi en fin d'année dernière, rendre visite à la fédération anglaise. Il y a deux fédérations en Angleterre. Une fédération qui rassemble les hospitalités et une qui rassemble les pèlerinages. Là, les Anglais sont pas du tout sur la même problématique. Ils sont principalement angoissés par la question du transport parce qu'eux, ils ont du multimodal à gérer. Et en revanche, la question sanitaire, je ne dis pas qu'elle est au second plan, mais elle n'est pas bloquante parce qu'ils sont venus très vite après la crise Covid, dès que c'était possible d'organiser un pèlerinage. Si vous allez en Espagne, il n'y a qu'une seule fédération qui rassemble les directeurs et les présidents d'hospitalité, c'est-à-dire des associations qui accompagnent les malades. C'est la même chose en fait. On est directeur de pèlerinage et on est forcément président d'une hospitalité. J'y suis allé aussi. La problématique des Espagnols, elle est tout autre. C'est comment faire pour faire revenir des pèlerins qui sont assez facilement passe-frontières et viennent à Lourdes individuellement, comment les faire revenir au sein même d'un pèlerinage dans une démarche collective ?
D'accord.
Voilà, ça c'est plus le problème des Espagnols. Voilà, je vous multiplie là les problématiques en vous montrant que d'une nation à l'autre, ça peut être un peu différent. Du côté des Belges, en ce moment, c'est évidemment relancer le monde du pèlerinage qui a quand même beaucoup décru ces 10-15 dernières années. Et là, je me rends en Belgique pour comprendre comment les aider, comment les accompagner. Il y a toutes les questions, bien sûr, liées au spirituel, mais il y a aussi les questions liées à la logistique.
Il y a une baisse, effectivement, à cause de cette crise sanitaire et mondiale que nous avons vécue. Est-ce que, quelque part, on peut espérer que ça revienne et que les pèlerinages, au moins les pèlerinages organisés, ne soient pas morts ?
Les pèlerinages organisés ne sont pas morts,
d'accord,
loin de là. Et d'ailleurs, ce que nous voyons pour les prévisions de 2023 sont plutôt très bonnes.
D'accord.
Il y a un retour des pèlerinages. Ce qui est vrai, c'est que tendanciellement, depuis 30 ans, on va dire qu'il y a une tendance à l'individualisation de nos démarches personnelles, tout un chacun. En fait, nous avons plus de mal qu'auparavant à nous inscrire dans du collectif. Et un pèlerinage, venir en pèlerinage à Lourdes, c'est s'inscrire longtemps à l'avance, c'est entrer dans une démarche collective de pèlerinage. Et ce qu'on voit émerger ces 30 dernières années, de façon tendancielle, c'est un effet de vase communicant entre ceux qui avant venaient en pèlerinage organisé pendant 4 jours, ont tendance, pour beaucoup, à vouloir venir moins longtemps et se greffer sur le pèlerinage organisé sans s'y inscrire complètement, si vous voyez ce que je veux dire. L'archétype, c'est quand vous avez le pèlerinage militaire international ici à Lourdes, il y a très nombreuses personnes qui viennent pendant une journée ou deux goûter du pèlerinage militaire international sans s'y inscrire sur les 4 jours. Et le rosaire, c'est pareil, et le pèlerinage national de l'Assomption, 15 août, c'est pareil, etc., etc. Et donc, on voit cette tendance-là. Il n'y a pas moins de pèlerins à Lourdes, il y a plus de pèlerins autonomes et moins de pèlerins inscrits, dûment inscrits au pèlerinage organisé. C'est ça le grand phénomène. Et donc, ce qu'il faut expliquer quand même, à temps et à contre-temps, c'est que la réponse à l'appel de la Vierge, qu'on vienne ici en procession et qu'on bâtisse une chapelle, c'est-à-dire qu'on vienne vivre ces temps de procession, mais qu'on bâtisse la chapelle, c'est pas la chapelle matérielle, c'est l'église, c'est le groupe. Eh bien, cette réponse, elle est quand même d'abord et avant tout par le pèlerinage organisé, qu'il faut défendre comme un modèle singulier, quelque chose d'unique à Lourdes, qui permet en particulier d'accompagner des personnes en situation de maladie. Donc c'est un phénomène plus de vase communicant, oserais-je dire, entre des organisés, des pèlerins organisés et des pèlerins autonomes. Mais globalement, en 2023, ce que nous laissent entrevoir les réservations, c'est que l'année sera belle et bonne et on a un vrai gros redémarrage du pèlerinage organisé.
Alors, les journées de Lourdes se sont bien passées. Hein. Je pense que c'est une très belle édition pour cette année 2023. Mais jusqu'à quand durent ces congrès, Mathias Terrier ? Parce que le début de la saison, c'est toujours un petit peu avant Pâques, au Ramon. Et puis après, le sanctuaire, ben, voilà, il accueille, il commence sa saison.
Il y a une série de congrès qui se déroulent en fin d'année. En fin d'année, donc là c'était l'hiver dernier,
oui. Hein,
pour dire les choses, novembre-décembre. Et puis là, il y a une série de congrès encore jusqu'au mois de mars. Les derniers à l'organiser sont les Italiens qui organisent à Rome leur congrès de ce qu'on appelle le CENEPI, c'est-à-dire une confédération nationale de tous les pèlerinages organisés qui s'organisent à Rome donc courant mars. Après, on bascule dans la saison des pèlerinages. Vous avez raison de dire que ce n'est plus le temps des congrès. Et c'est le temps du pèlerinage à partir de Rameau. Et bien sûr, ces fédérations sont complètement calées dans ce rythme-là et dans cette respiration du calendrier lourdais.
On va vous souhaiter bien sûr donc du coup d'aller représenter comme il se doit le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. Alors il y a eu une belle inauguration et du premier clou du nouveau chemin de Bernadette, à la fois avec le maire de Lourdes, Monsieur Thierry Lavitte, et puis aussi le père Michel Dauban, le recteur du sanctuaire, où ils ont tous les deux planté le premier clou, des clous qui vont jalonner le chemin de vie de Bernadette. Je vous propose d'écouter quelques secondes. Nous avions reçu au mois d'octobre le maire de Lourdes qui nous présentait déjà ce projet de clou qui s'est vu donc réaliser samedi dernier, samedi 18 février, le jour de la Sainte Bernadette.
Mais le fait de Lourdes, restera ad vitam aeternam le fait d'Ouvre. L'histoire de Bernadette Soubirous, et je vous remercie de me permettre de parler de ce sujet-là, j'ai quand même jumelé Lourdes et Nevers. Je vous montre ici, voilà ce que sera le chemin de Bernadette, une des réalisations de l'année 2023, avec des clous posés au sol, à peu près 2000 dans la ville, qui vont objectiver le chemin de Bernadette Soubirous. J'ai reçu le maire de Nevers et il va continuer le même chemin à Nevers jusqu'au couvent Saint-Gildard et tous les lieux de passage de Bernadette Soubirous. C'est un magnifique chemin. Ce chemin, le chemin de Bernadette, c'est celui qui doit permettre aux pèlerins de monter en haut de ville et vice-versa, et de créer un flux permanent des pèlerins et visiteurs, et de faire en sorte qu'on vienne à Lourdes pour le fait de Lourdes, pour les apparitions, mais aussi parce qu'on a envie de voir ce qu'est devenu Lourdes, une ville de la fraternité, avec une structuration urbaine requalifiée aussi.
Voilà, donc un petit extrait de cette émission que nous avions eue avec lui. Et donc, le premier clou, c'était un peu l'idée de Mgr Perrier, le chemin du jubilé, où il fallait voir les quatre grands lieux emblématiques de la vie de Bernadette Soubirous à Lourdes, c'est-à-dire, bien sûr, le lieu des apparitions, le sanctuaire, mais le cachot, là où elle a été baptisée, les fonts baptismaux, donc à l'église paroissiale, et puis également l'hôpital de Lourdes, qui était avant, au temps des apparitions, l'école.
Oui. Cela redit plusieurs choses. Cela nous redit que combien Bernadette, d'abord, est chère au cœur des Lourdais et des Bigourdans, parce qu'elle est une Bigourdane, une Lourdaise. Alors, on disait à l'époque des apparitions qu'elle était la plus merdeuse. On a dit ça d'elle. Et donc, la Vierge est apparue à cette petite Bernadette qui est le trésor de Lourdes. Parce que, d'abord, ce que nous dit ce chemin, c'est son chemin de vie, en définitive. Lorsqu'on regarde le chemin de vie de Bernadette, c'est une modestie, bien sûr, dans la condition sociale, dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle veut aussi signifier par son témoignage. Beaucoup de modestie, beaucoup aussi de constance. Petite Bernadette, à partir du 11 février 1858 jusqu'au moment où elle quitte Lourdes, elle ne va cesser de témoigner toujours de la même façon, sans jamais bouger quoi que ce soit dans son témoignage. Belle constance. Et puis, un entourage familial qui est fragile, parce que socialement fragilisé, mais tellement solide au plan affectif. Et la petite Bernadette, en fait, on la redécouvre grâce à ce chemin qu'on peut faire en marchant dans Lourdes, en allant à la rencontre de ce qu'elle a été à travers ces lieux qui demeurent. Je pense que là, c'est une très, très belle idée sur laquelle, en effet, Mgr Perrier avait bâti le chemin du jubilé. Parce que à chaque étape des lieux de vie de Bernadette, quelque chose se dit de son évolution personnelle, de ce qu'elle accomplit dans sa vie, de parfois ces étapes douloureuses qu'elle accomplit lorsqu'elle doit aller, vous disiez, par exemple, à l'hospice. L'hospice qui maintenant est l'hôpital de Lourdes. En fait, elle doit se protéger. Parce qu'elle est devenue quelqu'un qui est hyper médiatisé. On n'imagine pas, à l'époque, la pression médiatique qu'il y a sur les épaules de cette bonne femme. Il faut la protéger. Donc on la met à l'hospice. Et l'hospice, c'était en fait tenu par les sœurs de la Charité de Nevers, où elle se rendra plus tard, puisque c'est sa vocation de sœur, à Nevers. Vous voyez tous ces lieux, le cachot, le moulin du bonheur, évidemment, le cachot, ces rues qu'elle a connues, l'hospice, Nevers. Alors Nevers, c'est le jumelage dont parlait le maire, qui a été fait avec le Nevers, la ville, mais où il y a le couvent Saint-Gildard, où elle passera le reste de sa vie à partir de 1866. C'est très bien de donner une chance à ceux qui viennent à Lourdes de découvrir ce personnage exceptionnel, mondialement connu. C'est quand même une chance pour une ville d'avoir un personnage mondialement connu.
Voilà. Et puis, c'est beau aussi de voir tous ces pèlerins qui vont visiter la ville de Lourdes, parce que certains ne restent qu'en bas de ville, ce qu'on appelle le bas de ville, c'est-à-dire le secteur hôtelier et le sanctuaire, et voir que effectivement la ville, c'est une ville tout à fait normale, avec des rues et puis des gens qui habitent, des habitants, et c'est aussi des fois la chance de rencontrer les habitants de la ville à travers ce chemin de vie de Bernadette.
Oui, une ville qui gagne à être connue, comme on dit, mais qui gagne aussi à être réhabilitée.
Oui.
Le maire de Lourdes le souligne à temps et à contre-temps, que cette ville a besoin aujourd'hui d'investissement, a besoin d'une réhabilitation urbaine, comme on dit, pour qu'elle donne le meilleur visage d'elle-même. Il y a des très très belles choses à voir à Lourdes. Bon, le château est emblématique, mais déambuler dans ces, dans ces rues de Lourdes, ça, c'est vraiment un beau moment en complément du pèlerinage qui se vit dans le sanctuaire.
Oui.
Donc c'est important d'encourager, et ces clous qui vont jalonner, ces quelques 2000 clous qui vont jalonner le chemin de Bernadette, dont le premier a été donc planté pour le 18 février en la Sainte Bernadette, ces clous, bon, c'est un peu la continuation du chemin du jubilé de 2008, inauguré par Jacques Perrier, l'évêque de l'époque, Monseigneur Jacques Perrier.
Voilà. Et qui remplacera ce, ce petit trait bleu qui était un petit peu
effacé.
Voilà. Merci beaucoup, Mathias Terrier. Et puis, on vous souhaite bon voyage. On a bien compris que ce n'était pas touristique, mais c'était vraiment professionnel.
J'irai voir quand même quelques aspects touristiques de Cologne et de Louvain.
Et j'espère aussi que vous nous ferez bien sûr le grand plaisir de nous raconter tout ça, bien sûr, à votre retour. Merci Mathias, très belle journée à vous et à bientôt pour l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes.